Vous écoutez Radio Kapi, il est 8h à Kisantu au Congo central, 1h de plus à Kiwanja au Nord Kivu. Voici la seconde édition du journal de cette matinale.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Massacre d'une centaine de civils par le M23 mercredi et jeudi dernier dans le Rutshuru au Nord Kivu. Les autorités locales expriment leur consternation. Dans un mémorandum, elles recommandent au président Tshisekedi, entre autres, de lancer une offensive contre le M23 et d'envisager une réparation des préjudices causés aux familles des victimes. Renforcer le dialogue entre le secteur privé et le gouvernement en vue de relancer le secteur de l'énergie en RDC et encourager les investissements locaux, c'est entre autres recommandations issues de la conférence des 2 jours sur l'énergie, assise organisée par la FEC et clôturée hier à Kinshasa. Et puis, l'invité de ce matin, Abdelaziz Thioye, directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme de la MONUSCO, il nous parle de sa mission de service de 2 jours effectuée cette semaine à Kisangani. Madame, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les autorités coutumières et politico-administratives locales de la chefferie de Bwito expriment leur consternation à la suite du massacre des civils perpétré par les rebelles du M23 à Kishishe et environ. Dans un mémorandum adressé au président de la République, les autorités locales de Bwito, qui ont trouvé refuge à Goma, condamnent fermement ces actes de terrorisme infligés aux populations et réaffirment leur soutien au FARDC afin de mettre hors d'état de nuire les terroristes du M23 dans une déclaration faite samedi à Goma, ses responsables locaux font état de massacres et de plusieurs exactions commises par le M23 entre le 15 octobre et le 30 novembre 2022 dans Bwito. Un extrait de leur déclaration, lu ici par le chef de groupement de Bukombo, David Héritier Kaumbo.
C'est avec consternation que nous décrions les massacres de nos populations sur la terre de nos ancêtres, dans les zones sous contrôle des terroristes du M23 depuis l'envahissement du groupement Tongo, Bishusha, Luya, Bambo, Centre et Kishishe, toujours en groupement Bambo, massacres commis par les rebelles du M23 pour la période du 15 octobre 2022 jusqu'au mercredi 30 novembre 2022. Ces massacres faisaient suite à d'autres abus des droits humains, entre autres les travaux forcés, recrutement forcé des jeunes dans leur vie. Les mouvements, pillage systématique de biens de la population et violences sexuelles commises aux filles et femmes. Plus de 64 personnes ont été tuées par ces mêmes terroristes dans les villages Muhindo, Busekera et Bugina, toujours en groupement Tongo. En groupement Bambo, village Bambo Centre, Kishishe, Kirumba, Kapopi, les bilans plus de 150 personnes tuées horriblement, dont la quasi-totalité est le village Kishishe, où une soixantaine de populations civiles étaient tuées dans l'église adventiste de Kishishe, dont 3 sont les enfants.
Ces autorités coutumières recommandent au président de la République, entre autres, de lancer une offensive contre les rebelles du M23, de diligenter une enquête indépendante pour que justice soit faite et d'envisager une réparation des préjudices causés aux familles des victimes, mais aussi d'assister les déplacés de guerre. Et à la suite de ce massacre, le gouvernement congolais a décrété 3 jours de deuil national sur tout le territoire de la RDC depuis hier samedi. En effet, une centaine de civils sont morts dans une série de tueries attribuées au M23 à Kishishe dans le groupement Bambo, territoire de Rutshuru. Durant cette période de deuil, les drapeaux seront en berne dans tout le pays. D'autres voix s'élèvent aussi pour condamner ce massacre attribué aux rebelles du M23 qui bénéficient de l'appui de l'armée rwandaise. C'est le cas de la MONUSCO et du prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Pelé Kipela Mondo nous en parle.
Prise lors du Conseil des ministres de vendredi 2 décembre 2022, cette décision a été annoncée par les porte-parole du gouvernement. Selon Patrick Muyaya, au cours de ces conseils, le président de la République a demandé à la ministre de la Justice et garde des Sceaux d'ouvrir, je le cite, sans délai, une enquête au niveau interne et en même temps d'œuvrer en faveur d'une enquête internationale pour faire la lumière sur ces crimes de guerre commis par ces barbares, fin des citations, condamnant fermement cet odieux crime de guerre commis à Kishishe par le M23-RDF. Félix Tshisekedi exprime sa solidarité et sa compassion aux familles des victimes, ajoute le porte-parole du gouvernement. Pour sa part, la MONUSCO s'est dit horrifiée par les informations faisant état d'atteinte aux droits de l'homme. Sur son compte Twitter, la mission onusienne dénonce des actes épouvantables et appelle les autorités compétentes à enquêter sans délai et à traduire les auteurs en justice. De son côté, le prix Nobel de de la paix n'est pas resté silencieux. Sur son compte Twitter également, le docteur Denis Mukwege dénonce les massacres de masse des personnes disparues et autres recrutements forcés d'enfants. Pour Denis Mukwege, je le cite, « Ces crimes doivent entraîner des sanctions rapides aux forces d'occupation M23-RDF et des poursuites par la justice nationale et internationale. » Fin de citation.
Pour sa part, l'évêque émérite du diocèse de Goma, Mgr Théophile Kaboy, invite la population des provinces de l'Est à croire toujours en l'avènement de la paix. Il a dit jeudi dernier à l'occasion du 40e anniversaire du lycée Anouarite de Goma, jour qui coïncidait avec le 58e anniversaire du martyr de la sœur Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta. Les élèves du lycée Anouarite ont joué la représentation de la rébellion Simba en 1964, les rebelles qui ont tué cette religieuse. 58 ans après, les groupes rebelles sont toujours actifs dans les provinces de l'Est de la RDC et continuent de s'aimer la désolation parmi les populations civiles. Pour Mgr Théophile Kaboy, cela ne devrait cependant pas nous décourager, il a dit au micro de Rosalie Zawadi.
Pour dire que jamais le mal n'aura le dessus. Si la situation de misère, de guerre perdure, le Seigneur donne toujours des flashs de joie, des flashs de bonheur. Et c'est ce que j'ai dit, que nous n'avons pas le droit au découragement. Le Congo, tôt ou tard, se levera et marchera. Déjà, dans ces jeunes gens, on voit la joie qui les anime, la détermination aux études, la dignité, la discipline. Tout cela sont des valeurs qui font que nous n'avons pas le droit au découragement. Et donc, pour moi, ce qui m'encourage, c'est que demain ne sera plus aujourd'hui, mais la bienheureuse Anouarite est à l'œuvre et nous assiste. Allons de l'avant, l'espoir est toujours là et donc nous devons avancer dans cette détermination de construire. Continuons à faire le bien pour autant que nous pouvons et ce sera certainement cela qui fera que le Congo va se mettre debout demain pour la joie de tout le monde.
Entre-temps, notez la fin de l'étape des travaux en groupe des délégués au troisième rang du processus de Nairobi pour la paix dans l'Est de la RDC. Au cours de ces travaux, des recommandations ont été faites dans plusieurs domaines pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Des précisions avec Martial Papimukeba, notre envoyé spécial dans la capitale kényane.
Les groupes de travail étaient répartis en fonction de leurs provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Les leaders communautaires et la société civile étaient regroupés ensemble, tandis que les représentants des groupes armés ont formé conjointement d'autres groupes. Les discussions étaient animées par les représentants de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, du ministère des Affaires étrangères du Kenya, du gouvernement congolais et les PDDRCS, avec les soutiens de la MONUSCO. Pendant les travaux, les différents participants ont d'abord examiné les recommandations ici de la première et la seconde phase du processus de Nairobi, tenues respectivement en avril et mai dernier, mais également des consultations avec Uhuru Kenyatta, tenues à Kinshasa au cours du mois de novembre dernier. Par la suite, des recommandations politiques, sécuritaires, économiques et sociales ont été formulées au niveau régional, national et provincial pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Nairobi, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, renforcer le dialogue entre le secteur privé et le gouvernement en vue de relancer le secteur de l'énergie en RDC et encourager les investissements locaux. Ce sont là, entre autres, les recommandations issues de la conférence des deux jours sur l'énergie. Conférence clôturée hier à Kinshasa. Ces assises étaient organisées par la Fédération des entreprises du Congo FEC. Écoutez plutôt Eric Monga, président de la commission énergie au sein de la FEC. Il est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Une des premières recommandations qui était très importante, c'est garder le dialogue entre les parties prenantes. Le dialogue constructif que nous sommes en train de construire jusqu'à présent. Et c'est par ce dialogue constructif entre... Vous avez vu que les membres du gouvernement étaient très ouverts et qu'ils ont porté haut leur politique gouvernementale et le secteur privé a aussi donné un peu sa projection et les retombées sur le social. La deuxième chose, c'est que nous avons eu des objectifs à atteindre. Comment protéger les investisseurs locaux? Comment les inciter à investir rapidement? Comment est-ce que l'État doit se comporter? Et comment est-ce que l'investisseur doit se comporter envers l'État aussi? Parce que nous avons des droits et des devoirs réciproques. Nous avons l'objectif d'amener à peu près 1700 MW supplémentaires. Pour l'instant, la SNEL en produit à peu près autant. Donc nous voulons doubler cette capacité d'ici 2030, entre 2030 et 2035.
Dans l'actualité, notez aussi que la pêche est fermée pour une durée de 3 mois dans la province du Haut-Katanga. La cérémonie y afférente a eu lieu le jeudi à Kyubo, dans le territoire de Mitwaba. Elle était présidée par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Pour Joseph Kayumba, il est question de laisser les espèces halieutiques se reproduire pendant cette période. Ainsi, dès ce jour, tout transport de poissons est interdit. Seuls les détenteurs des stocks de poissons qui se sont déjà fait identifier sont permis à les évacuer. Pour sa part, le chef de division de l'agriculture, pêche et élevage a demandé à toute l'assistance et à tout le monde de respecter cette mesure qui est dans l'intérêt de tous. Province du Kwilu, le projet d'édit budgétaire exercice 2023 déclaré recevable à l'Assemblée provinciale, chiffré à plus de 383 milliards de francs congolais, ce budget connaît un accroissement de 113,11% par rapport à celui de l'exercice 2022 qui s'élevait à plus de 185 milliards de francs congolais. D'après le gouverneur de province, Willy Itundala, le dit budget est présenté en équilibre en recettes et en dépenses. Lors de sa défense, il s'est félicité car selon lui, son gouvernement a déjà réalisé plusieurs actions en termes d'infrastructures et compte faire encore plus au cours de l'exercice qui commence. Irène Boma.
C'est au cours de la plénière de vendredi au siège de l'organe délibérant du Kwilu que les députés provinciaux ont à la majorité voté pour la recevabilité de ce projet d'édit budgétaire s'élevant à 383 milliards 58 millions 928 664 francs congolais. C'est le gouverneur des provinces qui a défendu ce projet d'édit budgétaire devant les élites du peuple. Faisant une auto-évaluation à mi-parcours à l'occasion, Willy Itundala s'est dit satisfait de ses réalisations depuis qu'il est à la tête de cette province.
Je rappelle également que votre gouvernement provincial, c'est un modèle de réussite depuis l'avènement du gouvernement provincial. Qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures dans la province du Kwilu pendant notre avènement.
Pour la nouvelle société civile du Kwilu, le gouvernement provincial est appelé à revoir d'autres aspects qui touchent directement la vie de la population. Brunel Ndombe est son porte-parole.
Nous voulons que le budget 2023 réponde aux besoins réels de la population. Le problème de route, la priorité majeure de la population n'est pas encore satisfaite avec le problème de l'insécurité.
Notez que le gouverneur Itundala entend réaliser encore plusieurs actions à impact visible pour le développement social de sa population. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Santé. Plus de 29 000 personnes vivent avec le VIH-SIDA à ce jour dans le Sud Kivu. Les inquiétudes demeurent du côté des enfants, des femmes enceintes et des adolescents considérés comme population à risque et pour qui le VIH reste mal compris. Ces précisions ont été données le vendredi 2 décembre par la coordination provinciale du programme national de lutte contre le SIDA PNLS. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Plus de détails avec Rachel Kiesembangu.
Le VIH-SIDA reste l'un des problèmes prioritaires de la santé publique pour lesquels des actions plus fortes sont en train d'être engagées pour y mettre fin. Le médecin coordonnateur du programme national de lutte contre le SIDA Sud Kivu.
Pour le Sud Kivu, le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 29 743. On note également une amélioration globale des connaissances sur le VIH-SIDA dans la population adulte.
Cette journée rappelle aux uns et aux autres que le VIH n'a pas disparu. Les questions autour de cette maladie restent essentielles. De 29 743 personnes vivant avec le VIH au Sud Kivu, 21 816 reçoivent le traitement antirétroviral, dont 1507 en font. Bienvenue Ruizi Bouka, secrétaire exécutif provincial du PNMLS.
L'augmentation du financement de la réponse au SIDA, la sensibilisation accrue sur la vie des personnes, l'éradication de la stigmatisation et discrimination, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH reste essentielle.
Main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH, thème choisi pour célébrer cette journée afin d'appeler la population congolaise à se souder et faire face à ce fléau.
Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La légende du football brésilien, le roi Pelé, hospitalisé à Sao Paulo depuis mardi à cause d'une infection respiratoire, il a déclaré hier qu'il se sentait fort et plein d'espoir, ce alors qu'il poursuit son traitement contre un cancer du côlon. « Je veux rassurer tout le monde, je suis fort et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours », a déclaré l'icône de 82 ans dans un message sur Instagram, illustré par un rapport médical publié hier décrivant l'état de santé de l'ancien attaquant comme stable. Le triple champion du monde en a profité pour remercier tout le monde des nombreux messages de soutien qu'il a reçus et ajouter qu'il lui procurait plein d'énergie, lui permettant notamment de suivre le parcours du Brésil lors du Mondial 2022 au Qatar.
L'invité.
Le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme de la MONUSCO a clôturé mardi 29 novembre dernier une mission de service à Kisangani. Pendant son séjour de 48 heures, Abdelaziz Thioy a participé au lancement des consultations populaires organisées par le gouvernement par le biais du ministère des Droits humains avec l'appui du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, des consultations relatives aux mécanismes de la justice transitionnelle. Mais quel a été l'objet de sa mission dans cette juridiction? Abdelaziz Thioy répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Abdelaziz Thioy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fin de votre séjour à Kisangani. Qu'est-ce qui vous a amené dans la capitale de la province de la Tchopo?
Je viens d'effectuer une visite très très courte de 48 heures dans la capitale de la province de la Tchopo, Kisangani. Une visite pour participer à la cérémonie de lancement des consultations populaires dans le cadre du processus de justice de transition que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, agissant selon la vision du chef de l'État a décidé de lancer à travers tout le pays. Kisangani est la 8e province qui est concernée par les consultations populaires. J'en ai profité au cours de la visite pour rencontrer les autorités locales. J'ai été reçu par Madame la gouverneure de la province avec qui j'ai discuté de l'objectif attendu de ces consultations et en quoi les consultations peuvent véritablement contribuer à bâtir à répondre aux attentes des nombreuses victimes de la province, qui est une province qui a été particulièrement affectée par la violence armée au cours des 30 dernières années, et aussi discuter des moyens d'accompagner les victimes.
Vous avez rencontré, vous l'avez dit, Madame le gouverneur de province. Quelle lecture vous faites de tout ce qui vous a été dit? Y a-t-il eu des recommandations?
Avec la gouverneure, j'ai senti un engagement et un intérêt très fort, un engagement en faveur d'une implication et d'un soutien à ce processus. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et sa première préoccupation est la situation des victimes de la guerre des six jours, mais surtout la nécessité de préserver les liens de mémoire qu'il y a à travers la province. Donc, elle a préparé un projet en ce sens qui nous a été remis, que nous avons accepté d'étudier et de considérer en consultation avec les autorités au niveau central afin de prendre les décisions qui s'imposent.
Au finish, quel est l'objectif poursuivi par cette consultation?
Alors, les consultations visent à recueillir les points de vue et les desiderata de la population de la Tchopo. Jusqu'à quelques années, l'idée était beaucoup plus de signer un accord de paix ou décider, selon une volonté politique, de lancer un processus de justice de transition avec un modèle qui est plus ou moins imposé, qui vient soit de l'extérieur ou simplement de la capitale, décidé par les autorités. Ici, c'est un changement de perspective dans le sens où la consultation précède la mise en place du mécanisme. Donc, c'est après avoir consulté les populations, c'est les populations qui doivent dire concrètement comment elles voudraient que leur droit à la justice, à la vérité, à la réparation, à la réconciliation puisse réellement être pris en charge.
Abdelaziz Thioy, pourquoi la justice transitionnelle alors que la justice ordinaire existe dans notre pays?
J'ai rencontré les autorités judiciaires pour juste donner quelques éléments de contexte qui ont expliqué ce que tout le monde sait déjà, toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour administrer la justice. Le manque de moyens est le mal le plus partagé par les autorités judiciaires en général dans le pays, et ici particulièrement dans la province de la Tchopo, compte tenu de l'étendue vaste du territoire de la province, l'éloignement de certains territoires, ils ont des difficultés d'accès. Donc, vous pouvez comprendre que, pour juste donner un élément de contexte, la justice ne saurait pas traiter tous les cas. Donc, la justice de transition, elle est évidemment, elle repose sur la justice ordinaire, qui est un maillon essentiel dans le deuxième pilier, qu'il faut lutter contre l'impunité, faire en sorte que les crimes les plus graves et les auteurs les plus importants puissent être au moins poursuivis et sanctionnés.
Pour terminer, votre bureau est impliqué dans ce processus. Quelle est votre contribution?
Alors, en 2020, le chef de l'État avait sollicité le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à travers une correspondance adressée à la haute commissaire de l'époque qui était Michelle Bachelet, qui avait répondu favorablement et il y avait une convergence de vues entre Michelle Bachelet et les chefs de l'État sur la nécessité pour la RDC d'adresser ce qu'on pourrait appeler les racines du conflit pour éviter que le pays ne soit réellement en proie à ces conflits répétitifs qui minent son développement et affectent de façon sérieuse la protection des personnes, des individus et de leur bien. En ce sens, ça pose un sérieux problème à la paix et à la sécurité. Donc, travailler à mettre en place un processus de transition va permettre définitivement de pouvoir créer les bases d'une paix durable et de restaurer la sécurité de façon durable aussi, mais de façon certaine, de créer les conditions pour que la RDC puisse enfin amorcer son développement au profit de tous les Congolais, mais aussi un développement qui était attendu pour toute l'Afrique.
Abdelaziz Diouf, merci.
Merci.
Le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme y répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. Place à l'actualité sportive avec Enoch Matondo Mvuezolo.